Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les chrétiens d'Orient ont été particulièrement décimés au cours du dernier siècle. Les guerres, le génocide arménien, l'exode palestinien, la poussée de l'islam, autant d'événements qui ont marqué cette communauté qui, pourtant, a été longtemps majoritaire sur ces terres. Une communauté hétéroclite dans laquelle il n'est pas toujours très facile de se retrouver, d'où l'intérêt du dernier livre de notre confrère Jean-Michel Cadiot, « Petit lexique pour comprendre les chrétiens d'Orient », qu'il a publié fin 2015 aux éditions Éric Bonnier. Une mine de connaissances sur ces groupes religieux souvent modestes, mais qui, pris dans leur ensemble, forment un groupe kaléidoscopique conséquent. Et puis le cinquième et dernier volet de notre série sur l'édition dans le monde arabe, elle est consacrée ce samedi au Liban.
Orient Hebdo sur RFI.
Jean-Michel Cadiot, bonjour.
Bonjour.
Longtemps journaliste au Proche-Orient, vous publiez fort à propos ce petit lexique pour comprendre les chrétiens d'Orient aux éditions Éric Bonnier. Il est vrai que les églises sont nombreuses, éparpillées, presque localisées, contrairement à l'église de Rome, unie, en tout cas au moins jusqu'à l'avènement du protestantisme. Comment expliquer cette désunion, Jean-Michel Cadiot ?
Cette désunion, elle est ancienne, puisqu'elle date du Troisième Concile. Pour des raisons théologiques, linguistiques, politiques, des chrétiens se sont séparés. Mais tous ceux qu'on appelle chrétiens aujourd'hui, catholiques, orthodoxes, y reconnaissent tout de même, de la même façon, le Dieu en trois personnes, le Dieu trinitaire, et ils ont le même credo.
Votre livre est un lexique. Il se présente donc comme un index avec des mots référencés de A à Z. Alors, par exemple, à la lettre A, on trouve Assyrien. Mais Assyrien, c'est à la fois un peuple et une religion.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu donc la Syrie qui a été en Mésopotamie une des très grandes civilisations, et c'est au sein de ce peuple assyrien qui subsiste aujourd'hui, enfin beaucoup de gens s'en réclament, qu'est née une des grandes écoles théologiques, un des grands rites de l'Église, celui des Nestoriens, voilà, qui est maintenant séparé d'ailleurs entre catholiques et non catholiques.
C'est avec cette entrée chiite, quel rapport avec les chrétiens ?
La population chiite a toujours vécu avec des chrétiens. Il y a toujours des chrétiens dans les pays majoritairement chiites, comme aujourd'hui on peut dire l'Iran, qui était un pays où le christianisme était très important pendant des siècles, l'Irak bien sûr, et le Liban par exemple, où ils ont toujours coexisté. Et il y a des points communs. De quoi deviennent-ils ? C'est l'histoire qui peut le dire. Par exemple, le fait qu'il y ait un clergé, l'idée du Messie, le Messie des chiites, de revenir avec Jésus-Christ pour les chiites, l'imam Mahdi. Il y a des points communs importants.
Et les chrétiens en terre chiite ont été protégés ou c'était plutôt une coexistence pacifique ?
Je ne sais pas si on peut dire que, d'une façon générale, les sunnites ou les chiites ont mieux protégé les chrétiens. Mais il y a eu plus qu'une coexistence, il y a eu une collaboration, une fraternisation entre les chrétiens d'Orient donc et les chiites.
Alors, à la lettre D, plusieurs entrées, par exemple Dimitude.
Dimitude, c'est le régime auquel étaient soumis les gens du livre, au sens très large, sous les califes. Alors on dit que c'est Omar Ier, non, c'est plutôt Omar II, semble-t-il, qui a institué ce régime dans lequel les chrétiens étaient à la fois protégés, mais aussi étaient tout de même des citoyens de seconde zone, n'avaient pas accès à certains, avec des variantes bien sûr, et ce régime a été aboli. Il a été aboli à la fin de l'Empire ottoman.
Et ça concernait donc les chrétiens, mais aussi les juifs. Et ces derniers devaient payer un impôt particulier, c'est ça ?
Voilà, les éates. Mais ça concernait les juifs, absolument. Ça concernait les zoroastriens, l'ancienne religion perse. Ça concernait les sabéens, qui sont les disciples de Jean-Baptiste, qui y en a toujours en Irak et en Iran. Et également les hindous en Inde, par moment.
E comme école théologique, combien y en a-t-il en Orient ?
Alors, c'est plutôt pour le passé que j'applique cela. Il y en avait trois grandes. Il y avait Antioche et Alexandrie, qui étaient les deux pôles de réflexion des plus grands théologiens, qui étaient toujours en compétition, en concurrence l'une avec l'autre. Et il y avait aussi dans ce que j'appelle l'église de Perse, c'est-à-dire les Nestoriens, il y avait Édès et Nisibe, qui étaient les deux grands pôles aussi universitaires et de réflexion. Toutes ces écoles ayant donné de très, très grands saints à l'Église.
Est-ce qu'aujourd'hui, ces écoles perdurent ?
Non, elle ne perdure pas, certainement pas celle d'Édesse, bien entendu. Il y a toujours, par contre, au Caire, bien sûr, des grands théologiens. Et Antioche, comme vous le savez, n'est plus, est en Turquie et n'a plus d'école théologique. Mais il y a tout de même une pensée antiochienne, une pensée alexandrine et une pensée de l'Église orientale.
Et la pensée alexandrine, c'est celle qui irrigue la communauté copte ?
Absolument, les coptes, c'est les alexandrins, d'ailleurs ils sont appelés souvent comme ça dans l'Église catholique, dans certains documents.
F comme Florence. Alors là, nous avons affaire à un concile qui voulait regrouper les églises d'Orient et d'Occident, mais ça n'a pas marché.
Oui, il y a eu deux tentatives à Lyon au XIIIe siècle et à Florence, Ferrare, Rome, parce que c'était le moment où l'Église était en crise. Il y a eu ce concile de Florence, Ferrare, qui a réuni normalement les églises au moment où les Orientaux, enfin les Byzance ou Constantinople, étaient assiégés par les Turcs. Cette grande peur de la Turquie a fait un rapprochement bien après les croisades et ce concile a prôné l'union. Mais elle ne s'est pas matérialisée. Par contre, le patriarche est venu. C'est tout de même important de dire ça, qu'il y a eu toujours des dialogues entre patriarche et pape, contrairement à ce qu'on dit souvent. C'est pas Paul VI, c'est Athénagoras les premiers. Il y en a eu, par exemple, un concile de Ferrare.
Cela dit, les églises d'Occident et d'Orient ont toujours été en compétition, avec parfois des affrontements sanglants, notamment Constantinople 1204.
Alors c'est la pire période pour l'Église peut-être, le sac de Constantinople par les croisés. Il y a eu des relations très très mauvaises pendant les croisades, et puis il y en avait eu avant déjà, et depuis, disons, quelques siècles, c'est évident que l'Église catholique romaine, surtout, est beaucoup plus puissante que l'Église orientale, puisque maintenant, pour l'Église orientale, ce sont des églises surtout nationales, avec ce patriarche œcuménique qui est très proche du pape, mais qui gouverne un réseau pas très important.
Qui sont les jacobites à la lettre J ?
C'est un terme qui a été utilisé pour désigner ceux qui ont suivi Jacques Baradaï ou Jacques le Mendiant, enfin on peut, voilà, qui est un homme qui était contre Constantinople et qui était partisan de ce qu'on peut appeler le monophysisme, qui avait donc qui était en hérésie du point de vue et des catholiques et des orthodoxes. Alors maintenant on les appelle Syriens orthodoxes ou syro-orthodoxes. Il y a une branche catholique, les Syriens catholiques ou syro-catholiques. C'est une branche donc monophysite, comme les Coptes, comme les Arméniens, et qui est importante en Syrie, qui est importante un peu au Liban et en Irak. Donc ils sont peut-être 200 000 sur les jacobites, qui ont suivi Jacques le Baradaï, qui est l'homme qui s'est rebellé contre l'Empire.
Et les jacobites catholiques reconnaissent Rome ou pas ?
Absolument. Alors ils ne se disent plus jacobites. Ils ne se disent plus jacobites, même s'ils sont dans cette... cet héritage, mais puisqu'ils ont renoncé au monophysisme, bien sûr, mais il y a une branche catholique, oui, assez importante, oui.
Passons à la lettre M, très fournie. Nous avons les Malabars, les Maloncars, les Mandéens, les Maronites, les Maximites, les Melkites, tous chrétiens.
Tous chrétiens.
Et quelles sont leurs particularités ? C'est des particularités locales ou leur allégeance à quelqu'un qui, à un moment donné, a fait scission comment ça se passe précisément ?
Pour les Maximites, par exemple, c'est ceux qui ont suivi Maxime le Confesseur, qui est un très très grand théologien, un peu méconnu, qui est peut-être le plus grand théologien, et qui était totalement fidèle à Rome. Les Maronites, nous savons que ce sont les disciples de Saint Maron, un moine qui a fondé une communauté, qui a essaimé, qui a toujours été lié à Rome. En tout cas, il n'y a que des catholiques.
Très présent au Liban.
Très présent au Liban. Le président de la République, bon, il n'y en a pas actuellement, mais enfin, le président de la République est normalement maronite, en tout cas, il est chrétien. Ce sont des rites, surtout, ce sont des rites, le rite maronite, qui est un rite antiochien particulier, comme les Syriens catholiques dont nous parlions, les jacobites, par exemple, une messe jacobite, une messe maronite, il y a des différences, mais enfin, c'est la même source, hein, c'est Saint-Jacques, voilà. Donc, ce sont pas des ordres, ce sont des rites, des églises, avec un patriarche, chacune un patriarche. Les maximites n'en ont plus, par contre, ça a duré un petit moment.
Alors, nous arrivons à la lettre N avec les Nestoriens. Et là, les Nestoriens, c'est très important. C'est une branche importante des chrétiens d'Orient.
Ça a peut-être été même la plus importante, et de loin, puisque au Xe, XIe siècle, c'était les plus importantes. C'était l'église la plus importante, avec 150 évêchés jusqu'en Chine, de l'Égypte à la Chine. Ils étaient considérés comme hérétiques par les catholiques, mais c'est ceux qui avaient, au concile d'Éphèse, considéré que, donc, Marie n'était pas la mère de Dieu, qui ont été condamnés pour ils avaient suivi Nestorius, ce qui est plus compliqué que ça, mais on va résumer. Et ils ont essaimé à partir de Séleucie, c'est-à-dire Bagdad actuel, qui était alors Perse. Ils sont essaimés dans tout l'Orient. C'est pour ça qu'on les dit l'Église de l'Orient ou l'Église de Perse. C'est pour ça que je disais que l'Église de Perse était très importante.
Parce que eux-mêmes, les Nestoriens sont allés évangéliser, par exemple, en Inde et jusqu'en Chine.
En Inde, énormément.
Il y a aujourd'hui des Nestoriens.
Il y en a, oui, ils se disent plus Nestoriens parce qu'ils sont en général catholiques, donc ils ont abandonné le Nestorianisme. Surtout ceux qui sont réunis à Rome ont abandonné leur hérésie, entre guillemets, mais tout en gardant des rites qui sont liés. Donc, mais il y a des Nestoriens, ils ne sont plus Nestoriens, mais ces églises nestoriennes ont plusieurs, très très nombreuses, dans l'état du Kerala en particulier, au sud-ouest de l'Inde, et également en Chine, il y en a eu beaucoup. Marco Polo, on a rencontré, il y en a eu à la cour, et il y a un de leurs patriarches qui était mongolo-chinois. Donc oui, c'était très très important, mais au fil des siècles, ils sont beaucoup moins importants.
Lettre P, il existe aussi des protestants orientaux.
Il y a beaucoup de protestants en Orient. Il y en a, d'abord, c'est un phénomène nouveau. Il y a beaucoup, beaucoup d'évangélisation de protestants dans la langue du pays. Parce que tout c'est, la différence des protestants, c'est qu'ils prennent toujours la langue du pays. Or, les communautés orientales dont nous parlions, elles parlent arménien, elles parlent, comme langue liturgique, elles parlent le chaldéen, qui est des nestoriens chaldéens, ce qui vient de l'araméen, ou les syriens catholiques, les syriens orthodoxes, ils parlent, d'autres langues, les coptes parlent liturgiquement copte, même si c'est l'arabe maintenant. Par contre, les protestants qui sont là tout de même, qui sont venus avec la colonisation, mais depuis longtemps, et qui se sont beaucoup incrustés, sont peu sur les rites. Pour eux, c'est pas le plus important. Ils ne sont pas ancrés depuis des millénaires comme les autres.
Alors, nous parlions des rites, et justement, à la lettre R, il est question essentiellement des rites. Est-ce que c'est ça qui fait la diversité des églises d'Orient, les rites ?
C'est très très important parce que c'est le rite, c'est aussi la langue. Alors les rites, ce sont des messes, enfin des divines liturgies, ce sont des coutumes, c'est-à-dire les messes sont différentes, on est toujours tourné vers l'Orient. Alors en Occident, avec le Concile, nous considérons que les chrétiens catholiques, en tout cas, considèrent qu'il faut que le prêtre s'adresse aux fidèles et que c'est un progrès. Bon, vu de là-bas, c'est une régression, ça peut paraître bizarre, parce qu'au contraire, le prêtre est avec les fidèles, tourné vers Jérusalem, vers l'Orient, et il accompagne, et voilà, donc c'est une sorte de procession. Il y a des rites très importants, il y a des différences pour le baptême, il y a des différences pour les sacrements, même si c'est les mêmes sept sacrements, exactement les mêmes sept sacrements pour tous. Il y a des différences pour tous ces sacrements.
Et est-ce que ce sont ces différences qui font qu'une éventuelle réunification des églises catholiques ou orthodoxes, orientales et occidentales, est impossible ?
Je pense qu'elle est possible. C'est un aspect qui vraiment, normalement, est réglé, puisque dans la Sainte des Églises orientales unifiées à Rome, le rite est conservé, moins qu'il le voudrait, moins que le voudraient ces églises. Mais enfin, le rite est conservé. Par exemple, la messe n'est pas la même. L'ordre de la messe n'est pas la même. Il y a plusieurs Notre Père. Enfin, il y a des différences. La communion sous les deux espèces, qui chez les catholiques latins n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire chez les orientaux. Mais ça peut pas faire obstacle. À mon avis, les problèmes sont beaucoup plus, entre guillemets, politique, et surtout l'importance du rôle de Rome et du rôle, l'autonomie de ces églises, l'indépendance de ces églises, c'est plutôt ça que des questions de calendrier ou de rite.
Merci Jean-Michel Cadiot, ancien journaliste à l'agence France Presse et à Témoignages Chrétiens. Vous publiez chez Éric Bonnier éditeur ce petit lexique pour comprendre les chrétiens d'Orient.
Merci.
Orient Hebdo sur RFI.
Le dernier volet de notre série sur l'édition dans le monde arabe concerne le Liban, autre pays que vous connaissez bien. Franck Mermier, bonjour.
Bonjour.
Anthropologue au CNRS, vous avez dirigé le département scientifique des études contemporaines de l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth. Alors quand on voit la masse d'artistes, d'acteurs, de musiciens, de dramaturges au Liban, on ne peut qu'imaginer que l'édition se porte bien à Beyrouth. Est-ce le cas ?
Alors, l'édition, effectivement, est un secteur d'abord entièrement privé au Liban. La part du public est très, très réduite, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays arabes. Donc, un secteur de l'édition complètement privé. Et puis aussi tourné vers le monde arabe, c'est-à-dire 90% de ce qui se publie au Liban est exporté dans le monde arabe. Donc, c'est une édition extravertie, si on peut dire, qui a pour particularité d'avoir des éditeurs pan-arabes, c'est-à-dire qui ont une dimension pan-arabe. On a des éditeurs comme Dar al-Saqi, ou ce qui est considéré comme le Gallimard arabe, Dar al-Adab, la maison de la littérature, qui publie des auteurs de l'ensemble du monde arabe. Donc c'est une édition qui est véritablement pan-arabe, qui a aussi différents segments, aussi avec ses caractéristiques, une édition islamique, bien sûr, comme dans d'autres pays arabes, mais aussi une caractéristique plus libanaise, qui est l'édition chiite, hein, notamment installée dans la banlieue sud de Beyrouth. Et puis, cette édition tournée vers la pensée critique, vers la pensée novatrice, vers la littérature contemporaine, qui est aussi très importante à Beyrouth, avec en plus des éditeurs qui viennent d'autres pays arabes pour fuir la censure et qui se retrouvent à Beyrouth, qui est un pays comparativement plus libéral.
Et puis, autre caractéristique, les éditeurs éditent en arabe, bien entendu, mais aussi dans deux autres langues au moins, l'anglais et le français.
Oui, par exemple, on citait Dar al-Saqi qui publie évidemment en arabe, mais aussi en anglais. Et puis, on a aussi toute cette édition francophone aussi, qui est une caractéristique du Liban, hein, qui est très importante, alors qu'il publie surtout des auteurs libanais, en fait, hein, des romanciers, mais aussi des intellectuels. Et donc, cette caractéristique libanaise est évidemment difficile aussi à maintenir, puisque c'est une édition qui est basée sur un lectorat quand même fragile et peu nombreux comparativement au coût que suscite l'édition, bien sûr.
Est-ce qu'on lit de façon communautaire au Liban ?
Alors, est-ce que, par exemple, les chiites liraient tel livre, les sunnites tel livre, les chrétiens tel livre ? Je crois qu'il y a un lectorat pan-arabe, c'est-à-dire, si on parle de ceux qui lisent en arabe, effectivement, je pense que, comme partout ailleurs dans le monde arabe, le roman est très important, et notamment aussi les romanciers libanais, qui sont extrêmement productifs et qui sont aussi très nombreux, finalement, par rapport à la taille du pays. Et donc, le lectorat en arabe au Liban est finalement aussi, malheureusement, réduit du fait que aujourd'hui. On se tourne aussi vers les nouvelles technologies, que la jeunesse lit moins, que la lecture en arabe aussi est considérée comme quelque chose de difficile, du fait aussi de l'éducation qui est plus portée finalement vers les langues étrangères pour une grande partie du secteur éducatif libanais, ce qui finalement fait que beaucoup de Libanais se sont détournés de la lecture en arabe, en tous les cas.
Est-ce que l'édition libanaise est finalement un pont entre la littérature en arabe et la littérature plus occidentale ?
Ce qui est aussi très important à signaler, c'est effectivement la part des traductions qui sont opérées au Liban. C'est-à-dire, au Liban, c'est un des pays arabes qui traduit le plus, avec l'Égypte notamment. Et donc, qui traduit le plus, notamment du français, mais aussi de l'anglais, bien entendu, mais du français. Ce qui fait que la part des traductions en français dans le monde arabe est un peu rééquilibrée grâce aux Libanais, mais aussi aux Maghrébins qui traduisent plus du français. Mais effectivement, c'est un pont très important pour la connaissance des littératures et de ce qui se produit ailleurs que dans le monde arabe. Mais c'est aussi, le Liban est aussi un pont entre les différents pays arabes, puisqu'il produit et il publie des ouvrages écrits par d'autres auteurs arabes qui viennent du Maghreb ou de l'Orient arabe.
Est-ce que la crise économique d'aujourd'hui empêche l'édition libanaise de se développer ou alors c'est sans effet ?
La crise économique et les guerres surtout empêchent l'édition libanaise de se développer du fait que de nombreux marchés du livre sont aujourd'hui fermés. Que l'on pense à la guerre en Irak, en Libye, en Syrie, au Yémen, ce qui fait que de nombreux marchés sont plus accessibles pour les éditeurs libanais dont la plus grande partie de la production est tournée vers les marchés extérieurs. Donc effectivement, à la fois l'appauvrissement dans les pays arabes, dans de nombreux pays arabes, plus les guerres, les conflits violents, finalement sont des freins au développement de l'édition.
Merci Franck Mermier, anthropologue au CNRS, co-directeur du livre « Regard sur l'édition dans le monde arabe » chez Cartala. Ainsi s'achève notre série estivale sur l'édition et les habitudes de lecture dans le monde arabe. François Porcheron a réalisé cette émission que vous pouvez retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Samedi prochain, nous évoquerons les motivations des combattants locaux et étrangers de l'État islamique avec l'ethnologue américain Scott Atran. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.